Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Je m'appelle Jean-Luc Sesco. C'est chez moi, ici. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre vit dans mon appartement. À côté de moi. C'est bizarre. Alors, j'ai acheté cet appartement à Muguette. C'est ma voisine. Et avant, vivait ici son père, qui est mort à 101 ans. C'est pas que je crois aux fantômes, mais je sais pas comment dire autrement.
Bonjour, ici Erdua, et c'est l'heure de l'interview avec au studio Jane. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice de documentaires. Et Stéphane Trouille, membre du collectif, comme Jane, de cette association, de ce collectif, donc Festival Ad Hoc, qui va donner ses prochaines dates à partir du 9 septembre, c'est très bientôt, jusqu'au 14 septembre, et ça sera à Mirabel et Blacon. Alors, on peut peut-être parler de ce que sont ces rencontres, un festival du film documentaire hors circuit. Alors, quel hors circuit vous êtes? Et donc, à commencer par Stéphane, c'est ce festival organisé par Ad Hoc, quel est-il et qui le porte?
Comme depuis le début, je dirais, ce festival qui est né maintenant il y a 10 ans, c'est la 8e édition, mais il y a eu 2 années off avec le Covid. L'idée, c'est de proposer un espace sympa, agréable, avec du bon son, des bonnes conditions, où on puisse voir des bons films, avec l'idée aussi de rencontre. C'est vraiment ce qui forge le départ d'Ad Hoc, parce qu'on était quelques-uns, quelques-unes à se dire, mais il y a plein de bons films qui sont faits, mais on les voit pas, ou c'est compliqué de les voir, ou faut aller regarder sur tel site sur Internet, ou ça passe tard à la télé. Et on s'est dit, nous, on a des chouettes espaces, on est motivés, on va créer quelques jours où on va proposer des films, et donc voilà, et c'est l'idée aussi de films hors circuit. Alors c'est toujours, on le remet en questionnement chaque année, ça. Qu'est-ce que c'est que le hors circuit, jusqu'où ça va, ou quand est-ce qu'on passe à des grosses productions? Il faut se dire que globalement, de toute façon, le documentaire, c'est le parent pauvre du cinéma, et c'est des films documentaires, la plupart c'est des films où il n'y a pas de moyens. Nous, l'idée, c'est de mettre en avant des films qui sont faits avec les tripes, des films qui sont faits avec le cœur, des films où il y a un regard singulier. Et puis après, il y a une équipe qui se réunit, qui reçoit des films à partir du mois de janvier. Cette année, je crois qu'il y en a eu plus de 150, et qui les regarde, qui débat, et qui, au final, cette année, il y a 13 films qui ont été sélectionnés pour cette édition 2025.
On en parlera de quelques-uns. Alors, film à petit budget, certes, mais quand la création est derrière la caméra, cela peut aussi emporter le spectateur par les images, le son, l'univers. Est-ce qu'il a forcément nécessité de gros moyens pour exprimer, en quelque sorte, une certaine poésie aussi du monde ?
Moi, je pense pas qu'il y ait besoin de gros moyens pour exprimer la poésie. Par contre, pour que ce soit visible pour les autres et pour mener jusqu'au bout un film, parce que c'est un processus assez long, de longue haleine, je pense que quand même, il y a besoin d'un minimum de moyens, et d'autant plus quand c'est son métier.
Les moyens, ça nécessite plusieurs personnes pour capter un peu cette réalité, de la transmettre.
Ça dépend. Il y a vraiment plusieurs dans la programmation. Il y a plusieurs types de films. Il y en a quand même beaucoup qui sont tournés seuls, quasiment. Ça se voit ou ça se sent. Il y en a un très intéressant, Je vois rouge, par exemple, où elle a créé un dispositif pour filmer seule avec deux... elle en parlerait mieux que moi. Mais en tout cas, il y a deux, voire trois caméras en même temps qui tournent et elle est toute seule. Après, il y a toujours image et son au cinéma. Donc forcément, soit on fait tout seul et à ce moment-là, ça peut devenir compliqué de faire quelque chose de très très bonne qualité. Enfin voilà, encore une fois, tout dépend du dispositif, mais on peut filmer seul et ça n'enlève pas la poésie. Mais dès lors qu'on a des idées et qu'on veut les mettre en œuvre, on a souvent besoin de faire appel à d'autres personnes. Et l'art du cinéma, c'est quand même un art d'équipe aussi, voilà.
Jane, vous-même participez à ce festival en tant que membre, certes, mais est-ce qu'il y a un travail visible de votre part ?
Alors cette année, oui, exceptionnellement. Donc normalement, je m'occupe que de l'organisation, de la programmation, des bénévoles. Mais cette année, du coup, je me suis un peu déchargée de tout ça et j'ai proposé mon film. Et il a été pris. Donc, sans sympathiser spécialement, j'avais bien précisé, vous faites comme pour tout le monde. Mais du coup, c'est une grande joie parce que ce film, il est sorti en février dernier. Et sachant qu'il risquait d'être pris à ad hoc, j'ai attendu tout ce temps-là pour le montrer à l'ensemble des autochtones drômois qui me connaissent. Donc c'est aussi un super moment pour moi de le présenter. Donc il sera en plein air le vendredi 12.
Et on peut rappeler le titre, hein, « Travailleurs du vide ».
Oui.
Vous avez suivi une équipe, qu'est-ce que c'est?
Alors
ce
j'ai suivi pendant 5-6 ans même, j'ai tourné 6 ans, un collectif de circassiens qui fait de la très haute voltige. Voilà, au début j'étais plus intéressée aussi par leur fonctionnement collectif. Et puis petit à petit j'ai complètement vrillé dans la poésie. En fait, je parle du travail quand même, parce que c'est un projet qui a été lauréat du Festival Film et le Travail. Donc ce documentaire-là est quand même axé sur le travail et la dure vie de cirque, mais ça parle aussi de la grâce, de la chute, de se jeter dans le vide, de la sensation, enfin de l'art en général en fait.
Et une équipe autour de vous ?
Du coup j'ai tourné 5 ans toute seule. Vraiment entièrement toute seule. Il y a beaucoup de ces rushs-là dans mon film. Et puis après, j'ai eu l'idée de faire des mises en scène. Donc là, j'ai fait appel à une équipe. Et puis après, j'ai eu une production. Donc j'ai refait un dernier tournage où j'ai finalisé toutes mes idées. En fait, je suis allée au bout en tournage de toutes mes idées. Et là, il y avait une équipe encore une fois.
Et donc, ça donne un film de 52 minutes.
Oui, voilà, ça c'est un film dans sa version 52 minutes pour la télévision et en attente de faire la version longue.
Alors, ces images, elles émanent de la plupart du documentariste, de vos connaissances, ou alors il y a aussi cette recherche de créateurs opérée par le collectif ?
Non, il y a vraiment un appel à films, en fait, comme n'importe quel festival. Et du coup, on en reçoit 150 en moyenne quoi, chaque année. Donc il y a des groupes, il y a à peu près 30 à 35 personnes qui travaillent sur la programmation, qui présélectionnent certains films. Et puis, petit à petit, il y a tout un système où ça remonte pour en garder au final 13, ce qui est très peu.
Et cet appel est lancé assez vite, assez rapidement, juste après le festival clos.
C'est ça, ouais. fin décembre, je crois que c'est lancé en général, ou mi-décembre.
Et comment le film documentaire, certes, semble-t-il, moi j'ai pas la télévision, mais on en voit de plus en plus avec cette multiplication de chaînes, est-ce que c'est vrai? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même un parcours très rude pour pouvoir présenter son film dans le milieu du spectacle et des médias?
Moi, je pense que ça... Enfin, le documentaire, il est en plein essor, en fait. J'ai l'impression, en ce moment, de plus en plus. Enfin, c'est comme si les regards s'étaient éduqués à ça. Et aussi, il y a aussi une différence entre documentaire de création et reportage télévisuel, quoi. Et du coup, oui, de plus en plus, j'ai l'impression que il y a plus de documentaires qu'avant, j'ai l'impression qu'ils sortent en cinéma. Peut-être je dis des conneries, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de spectateurs pour ce genre de film, cette catégorie, quoi. Le réel.
Est-ce qu'il existe une différence entre le documentaire pour le cinéma et celui pour la télévision ?
Il y a déjà des formats.
Par en durée,
ouais, 52.
Et pour la télé, ouais.
Ouais, pour la télé. Et après, des fois, on peut tomber... moi, j'ai eu la chance que pas du tout, là, puisque celui-là, il a été fait à la base pour la télé. Où on peut tomber sur des... Il y a des cases où on est moins libre de faire ce qu'on veut, de faire un truc poétique.
Par rapport à la télévision.
Voilà. Oui. Des fois, il y a ça. Mais bon,
moi, j'ai des charges.
Mais de plus en plus, en fait, pareil, voilà, sur les petites chaînes régionales, en fait, il y a une grande liberté pour le documentaire de création et une case qui est laissée à ça. Donc ça,
c'est 13 films avec une thématique ou une idée préconçue sur la sélection.
Non, justement, c'est une des particularités d'Adoc, c'est qu'il n'y a pas de thématique. Ça veut dire qu'on va pouvoir découvrir des films de différentes formes, de différents fonds, des films poétiques, des films plus expérimentaux, des films plus classiques peut-être dans leur manière d'être réalisés. Donc il y a vraiment un éclectisme assez important et moi en tout cas personnellement je trouve que c'est chouette de pas avoir forcément de thématique et de se laisser surprendre par des films qu'on n'aurait pas été forcément voir dans un festival dédié. Mais là, on se laisse prendre et puis on découvre plein de manières de réaliser ou de thématiques qui à la base peut-être nous intéressaient pas forcément.
Chaque année en fait, j'aime bien créer une table ronde et c'est vrai que chaque année... Quand même, même si c'est, il y a pas de thématique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dégage. Et donc, il y avait une année, c'était vraiment un truc particulier sur le son. Il y a quelques films qui ont ça en commun. Et cette année, donc, il y a une table ronde qui s'appelle Filmer l'invisible, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont ça en commun, soit parce que ça parle de quelqu'un qui cherche à retrouver un souvenir parce qu'il est amnésique, soit parce que ça parle d'un fantôme, soit parce que ça parle d'un souvenir encore une fois, mais là qui est bien présent. Enfin voilà, il y a eu quelques films comme ça qui seront recoupés dans cette thématique-là, filmer l'invisible. Mais c'est un pur hasard, c'est pas voulu à la base. C'est plutôt des films sélectionnés que se dégage une thématique pour la table ronde.
D'ailleurs, il existe plusieurs lieux de projection pendant ce festival.
Oui, cette année, on reprend nos quartiers complètement. Enfin, j'ai dit complètement, c'est pas complètement, mais en tout cas pour le cœur du festival qui va avoir lieu vendredi, samedi, dimanche à Mirabel et Blacon. Voilà, on aura les deux salles de projection en intérieur, l'espace de projection extérieur. Et cette année, c'est vrai qu'on innove, il y a une nouveauté, c'est qu'on va ouvrir à Valence cette fois. On commence le mardi soir au Luxe, avec la projection d'ailleurs d'un film d'une réalisatrice qui habite maintenant sur 10. Ou à proximité, Bojina Panatova. Jeanne, tu me...
Bojina Panatova.
Panatova, c'est bien ça. Son film Je vois rouge, où elle fait une enquête sur ses parents qu'elle soupçonne d'avoir été des espions communistes. Et donc, elle mène son enquête et ça va l'emmener assez loin et avec un dispositif, comme l'a dit Jeanne, qui est assez original. Donc ça sera le mardi soir au Luxe. Le mercredi soir, comme d'habitude, on fait une soirée à l'Éden, à Cré.
Avec Pédale Rurale.
Pédale Rurale, ouais. Ouais. Un film autour de la question LGBT, les queers et comment on vit en milieu rural. Alors j'avoue que je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas en dire trop. Mais voilà, c'est un peu cette thématique-là qui est une thématique qui est prégnante, je pense, dans notre société et notamment dans la vallée. Donc je pense que ça va vraiment valoir le coup de venir voir ce film. Et puis le jeudi soir, comme l'année dernière, l'année d'avant, on fait une soirée décentralisée dans à peu près 13 lieux de la vallée de la Drôme où y a deux films, un court et un plus long seront projetés, Écho et Demain au boulot. Donc Demain au boulot, ça revient 100 ans après les sardinières. On a fêté l'anniversaire de la révolte des sardinières à Douarnenez l'année dernière. Et donc là, c'est un film sur une usine à Douarnenez avec là aussi des femmes. Alors je ne l'ai pas vu non plus, donc je marche sur des œufs. Mais des femmes qui vont être en lutte par rapport à leur métier, leurs conditions, etc. Voilà, et donc ça c'est le jeudi soir dans 13 lieux qu'on peut retrouver sur le site internet de l'asso.
C'est un procédé que vous aviez créé au lendemain du Covid, je crois, de propager cette projection dans divers lieux,
ouais.
Avec l'apport d'un vidéoprojecteur, de se munir de ces appareils. Donc ça, c'est une prolongation, ça se tient toujours.
Tout à fait, c'est vrai, tu as raison Yves, c'est pendant le Covid, on s'est dit, allez, on va quand même continuer, donc on a mis ça en place. Il va y avoir aux Arbois d'Ivageux, Casamata, à Combeauvin, Café Bibliothèque de Chabriand, la colloque des briquettes à Cré, le Passage à Romans-sur-Isère, le Phare à Alex, les Labos de Paulette à Oust-sur-Cie, le Troquet de Marette à Château-Double, la Roue à Chabeuil, le Collectif 734 à Cré, la Colline à Montoison, le Pont Commun à Tournon, le Café Associatif, la Maison Meige à Francillon-sur-Roubion. Et dis donc, en lisant, je vois qu'il n'y a rien dans le Diois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Du coup, on a eu envie de... Parce que chaque année, c'est plaisant, ça rassemble du monde. Et puis, ça fait aussi des partenariats chouettes avec tous ces lieux associatifs, culturels, qui existent dans notre coin. Et donc, voilà, effectivement, on reprend ça. Et puis, avec toujours un débat à la fin avec, cette fois-ci, deux réalisatrices.
Le plus gros des projections auront lieu le week-end. Hein. Alors, je me retrouve à la bonne page.
Ce qu'il faut savoir, c'est que même les films qui passent au Luxe le mardi soir, à l'Éden le mercredi et le jeudi soir dans tous les lieux de la Drôme, ils sont rediffusés le week-end. Et de même que tous les films, en fait, cette année, on a fait le choix que chaque film soit rediffusé une fois. Donc, comme ça, ils auront une meilleure visibilité. On a pris un petit peu moins de films, de manière à... Avant, on faisait une rediff, mais de manière arbitraire, parce qu'on n'avait pas assez de cases. Donc là, on a fait en sorte que tous les films soient rediffusés une fois chacun.
Donc, à partir du vendredi 12, ça commencera à partir de 14h hein, à Blacon, voilà. Dans la salle 1, et puis ainsi de suite. Le programme est détaillé dans le petit dépliant, mais aussi sur le site du collectif Ad Hoc. Je reviens vers vous, Jane. Vous avez donc suivi des circassiens pour ce film qui s'intitule...
Travailleur du vide.
Ouais, Travailleur...
Du vide.
Travailleur du vide. Et comment se préparait ce tournage et peut-être cette envie, comment est-elle apparue ?
En fait, l'envie, moi, c'était un coup de foudre en les rencontrant. C'est toujours comme ça que j'ai très envie de faire un film. Et du coup, voilà, ça s'est fait instantanément. Ils m'ont appelé juste pour que je fasse un teaser. Et je suis arrivée sous cet immense chapiteau qui est un des plus hauts d'Europe. Et voilà, et eux, j'ai eu comme un coup de foudre, j'ai directement eu envie de faire un documentaire. Bon, j'ai fait le teaser, la commande. Et après, je leur ai demandé ça. Ils m'ont toujours soutenue. Pendant les 5 années où je tournais seule, j'étais nourrie logée dès que je venais en repérage filmer. Voilà. Et après, beaucoup d'écriture. Enfin, moi, j'écris un peu en filmant aussi. J'ai besoin d'avoir de la matière et après de réécrire. Ensuite, j'ai fait une résidence à l'USAS, justement, où on travaillait à partir de nos rushs. Une résidence d'écriture qui m'a bien aidée. Et après, faut chercher des sous et des diffuseurs, voilà.
Tu parles d'avoir produit un teaser. C'était en quelle année, ça, tu saurais ?
En 2018.
D'accord. Parce que au lendemain du Covid, beaucoup de compagnies de spectacle vivant, dues à cette pandémie, vrai. Ne pouvaient pas être forcément vues par les organisateurs ou les producteurs. Donc, il était exigé de toutes les compagnies de tourner un teaser pour faire connaître leur spectacle. Ça a été mal perçu par les artistes, parce qu'on ne peut pas restituer une ambiance.
Non, je l'ai fait. Je déteste. Et d'ailleurs, je tiens bien à préciser que déjà par rapport à ce que tu dis moi ce film au début c'était un peu en arrière-plan par rapport à d'autres projets, mais avec le Covid c'est devenu mon projet phare justement puisqu'il n'y avait plus de spectacle et que les gens ne pouvaient plus jouer sauf le Cirque Vost où j'ai tourné à Barcelone en 2020 pour mon film. Ils ont pu jouer quelques dates parce que c'était permis là-bas avec une jauge à 30%. Et aussi, exactement, on m'a demandé pendant le Covid de faire... Alors là, c'est pas des teasers. Les teasers, c'est vraiment pour vendre le spectacle ou pour le montrer au public. Enfin, pour donner une idée. C'est une bande-annonce, en fait, comme celle d'Ad Hoc. Mais par contre, la captation complète, spectacle filmé, moi, je suis archi contre. Enfin, parce qu'un spectacle vivant, c'est un spectacle vivant. Et voilà. Et du coup, dans mon film, je fais bien attention. Tout ce qui est montré du spectacle, c'est que des... quasiment que des points de vue que le spectateur ne voit pas. Et j'ai fait effectivement une fois une captation en les rencontrant et j'en ai plus jamais fait en 6 ans de tournage.
Ce sont des deux mondes qui n'ont plus lieu maintenant.
Alors des fois, si. Dans le spectacle vivant, il y a les pros qui veulent quand même voir le spectacle en entier. Donc des fois, en tant que vidéaste, on peut te demander de filmer le spectacle en entier quand même. Ouais.
Le soutien pour le court-métrage ou le long-métrage hein, du documentaire, existe-t-il est-ce qu'il y a une constance dans l'apport de production ou alors il y a peut-être une régression aussi d'investisseurs?
Moi, je dirais, si on s'en tient au budget de la culture, par exemple, pour une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça baisse drastiquement, quoi. Enfin, ça. Après, moi, j'ai pas réalisé de film et j'ai pas fait de demande particulière, mais globalement, quand même, dans le monde de la culture, la musique, l'art de rue, le cirque, etc. C'est comme on est quand même le cinéma. On est quand même dans une période où on réduit drastiquement les budgets. Donc plutôt tendance à dire que c'est en baisse. Mais après, en France, on a aussi un système de financement particulier avec
le CNC.
Le CNC, voilà.
Et toutes les aides régionales, quand même, on a quand même un bon système. Par contre, c'est pas évident d'avoir des aides. Il faut beaucoup travailler pour ça, en fait. C'est plus le protocole pour avoir les aides qui est compliqué. Alors déjà parce que y a ces dossiers artistiques à écrire qui sont assez fastidieux, mais bon, ça, en soi, ça fait avancer sur le film et c'est assez passionnant. Mais après, il y a des règles. Par exemple, pour avoir une aide à la production, on est forcé d'avoir une boîte de production. Les aides au développement, c'est pareil, d'être avec un producteur. En fait, en somme, en réalisateur, auteur, si on veut de l'argent pour notre film, la seule chose qu'on peut toucher, c'est une aide à l'écriture, nous, directement. Et ensuite, voilà, c'est les sociétés de prod qui gèrent. Donc, il y en a des très chouettes, mais il y en a des beaucoup moins chouettes. Et ça peut être vraiment à la limite du détournement d'argent public.
Et voilà. Donc, le documentariste solitaire et besogneux a peu de chance d'être soutenu?
Je dirais pas ça parce que ça arrive quand même. Voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il faut s'accrocher. Mais ça arrive. Et puis, moi, de mon expérience, c'est que dès qu'il y a une mini porte qui s'ouvre, après, il y a tout qui s'ouvre assez simplement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de sous quand même pour ce film. Et c'était de très bon augure. Enfin, je m'y attendais pas. Mais c'est à partir du moment où il y a eu une chaîne, puis ensuite il y a eu le prix. Il se trouve qu'il a été lauréat. Et puis après, du coup, toutes les aides, région, CNC, tout ça, en ont découlé. Et voilà, il a été finalement assez bien financé, mais pour la version longue qui n'est pas encore faite.
Je reviens sur ton propos là, sur le détournement de biens publics. Quel est le sens de ce propos?
En fait, c'est ce qui m'arrive actuellement. En vrai, du coup, super, ce projet a gagné un prix, donc à un 52 minutes produit par France TV. Mais moi, j'ai écrit une version longue et j'ai toute la matière. Et en plus, il y a tout l'argent pour cette version longue. Et du coup, ma productrice a décidé du jour au lendemain d'arrêter la production de la version longue. Alors qu'il restait plus qu'à la monter, en fait, avec la monteuse. Donc, ça doit être un budget avec les finitions, c'est-à-dire étalonnage, mixage, montage son. Ça doit être un budget de 17 000, 20 000. Voilà, et elle les avait largement, puisqu'il y avait eu 110 000 euros pour le projet et que le 52 minutes a été entièrement payé par France 3, à part mes salaires et un tournage. Mais bon, il y a eu un prêt achat aussi. Enfin bon. Voilà, du coup, je suis en gros litige, donc je ne sais pas si c'est l'idéal.
Ça, c'est un contexte assez courant dans le milieu du documentariste, cette problématique entre producteurs et réalisateurs.
Il y a 60%, j'ai lu ça sur le site de la SCAM, 60% des relations producteurs-réalisateurs dans le documentaire qui se passent mal.
Ah, quand même.
Ouais.
Mais alors, quel est le motif d'être producteur de films documentaires?
En fait, c'est des gens qui aiment le cinéma. Je crache pas du tout. Enfin, il y en a des très bien de producteurs. Moi, je suis juste pas bien tombée. Mais il y en a qui c'est par amour du cinéma, bien souvent, et envie et amour du documentaire et amour de l'art, de cet art du cinéma, vraiment, je pense. Et donc, il crée une structure qui va pouvoir soutenir les projets, tout mettre en œuvre. Parce que pour demander n'importe quelle aide, en fait, il faut avoir une boîte de production. Et c'est aussi des demandes administratives qui sont très fastidieuses. entre les budgets, tout ça. Il y a le dossier artistique, mais il y a toute cette partie administrative qui est très complexe. Et puis après, c'est accompagner les réalisateurs, les porter. Moi, je pense que c'est un métier qui doit être en soi passionnant aussi, quand, voilà, quand on aime les gens avec qui on travaille.
Donc, il y a en quelque sorte une nécessité d'intermédiaire entre un producteur ou le réalisateur. Vous parlez de maison de production ou d'autres services. Est-ce que ce sont des structures qui ont été amenées et qui sont vraiment nécessaires pour constituer et produire et peut-être diffuser un document ?
Bah, moi, je pense que oui, quand même, parce que comme je vous disais, le cinéma, c'est un travail d'équipe, quand même. Donc, on a quand même besoin d'un preneur de son, même si des fois, on peut prendre le son seul, d'un autre cadreur ou d'un cadreur. Ça dépend, enfin, c'est très différent. Et aussi, bah oui, parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que réalisateur. On doit à la fois penser à tout, ça, c'est sûr, mais on ne peut pas tout faire. Donc, tout ce travail de vendre le film, de déposer des dossiers, de faire toutes ces choses administratives et budgétaires, c'est vrai que ça serait vraiment too much, enfin en tout cas en ce qui me concerne, de devoir aussi faire ça. Mais il y a de plus en plus de producteurs de réalisateurs qui, agacés par ces difficultés relationnelles producteurs-réalisateurs, montent leur boîte de prod.
On peut continuer sur peut-être la programmation. Donc vendredi à 14h, vendredi 12, il y aura « Je n'embrasse pas les images ». On peut rappeler rapidement ce que sont chaque film, rapidement.
Oui, tout à fait. Alors moi je les ai vus, les films, donc « Je n'embrasse pas les images », c'est aussi un film qui va être traité à la table ronde sur l'invisible, parce que en fait ça raconte... Un traumatisme d'enfance et à travers une recherche comment le réalisateur retrouve ses souvenirs et essaie de se soigner quelque part. Enfin, je fais un bref résumé parce que je ne l'ai pas trop en tête.
Ça suffira. Ouais. Voilà. Et ensuite, à 14h toujours, à la deuxième salle à Blacon, donc « Je suis allergique aux fraises ».
Alors ça, c'est un film où il y a des témoignages de femmes alcooliques. Voilà ce que je peux en dire.
Oui. Et puis ensuite, à suivre, je ne vais pas indiquer les heures, hein, mais 13 images.
Alors 13 images, alors c'est un film de Bertrand Latouche. Alors là, c'est ce film aussi qui raconte. Il est amnésique d'un traumatisme et tout son film tourne autour de comment il essaie de recréer ce souvenir absent. Avec, du coup, on voit beaucoup de dispositifs de cinéma. Et toute la recherche, que ce soit en animation, avec le son, avec les décors, tout ça, comment il cherche à recréer ce moment de sa vie où il était ado et qui l'a traumatisé.
Comment peut-on retrouver un court-métrage, soit créateur de création ou de documentaire, quand ils ne sont plus dans les circuits ?
Déjà, en tapant juste son nom sur Internet, des fois, ils sont stockés quelque part. Après, il y a des...
La boîte de prod ?
Ouais, la boîte de prod. Après, il y a des sites comme Tank ou aussi en Bretagne, il y a Bretagne Diversité, où c'est une banque de données où il y a pas mal de films documentaires qu'on peut retrouver. Il y a quelques lieux où il y a des films documentaires qui sont... par exemple, il y a aussi un site qui est hyper intéressant, c'est Les Mutins de Pangée. C'est une coopérative audiovisuelle où il y a notamment pas que des docus et des vieux docus pour certains. Et je pense que ça peut être un bon endroit aussi, des fois, pour retrouver un film.
À suivre, toujours le vendredi, demain au boulot, suivi d'un apéro-concert avec Petit Petit.
Alors, Petit Petit, moi, je veux bien en parler, parce qu'en fait, c'est un groupe, rock, punk, je ne sais pas comment ils se définissent exactement, mais bon, en tout cas, ça envoie. Et en fait, il se trouve que c'était les musiciens du cirque que j'ai filmé, donc du cirque Vost. Et comme ils sont tout le temps en train de jouer sur la piste, pendant les répètes, tout le temps, ça joue tout le temps, bah leur musique, elle est omniprésente dans mon film. Donc c'est la BO du film et du coup, c'était chouette de les inviter à l'apéro-concert avant la projection.
J'ai oublié de mentionner aussi le court-métrage Écho de Noémie Aubry, hein, qui dure 6 minutes. Donc il y a des durées très variables, hein, aussi.
Mmh. Ouais, c'est le seul court, ouais. Mais je pense que c'était un coup de cœur. Et du coup,
Et donc ensuite, Travailleur du vide, donc la projection de votre film, Jane.
Voilà, on en a bien parlé. Donc je reviens juste sur Petit Petit. Donc c'est Lionel Malric, Joanne Candoré et Kevin Laval, les trois musiciens. Et voilà, et du coup, c'est du vrai son de film, parce que c'est du son direct souvent dans mon film. Et là, c'est leur version en concert.
Mais c'est vrai que c'est important pour nous, ces concerts, avec cette ambiance qu'on crée, parce qu'il y a des films, bien sûr, c'est le cœur. Mais à côté, on essaye de mettre en place une ambiance de petit village, où on va pouvoir aller. Cette année, il y a le collectif Micro Contact, un collectif de lutherie sauvage qui va nous proposer des animations et un stage pour fabriquer son portrait sonore. Avec aussi différentes petites installations sur le site à droite à gauche. Voilà, il va y avoir de quoi manger local et boire local sur le site. Il va y avoir tout un tas de petites spots où on va pouvoir être bien, s'installer dans des bons vieux canapés que Emmaüs nous prête le temps du festival. Enfin voilà, je pense qu'en plus les prévisions météo sont bonnes, je pense qu'on va vraiment retrouver un site agréable où on va avec cette ambiance de village, de rencontre, hein, où on se croise, on se parle et on écoute de la musique, on boit un verre, on danse, on réfléchit.
Terminer. Pardon. Oui.
Ah oui, j'allais dire de rencontres. Et voilà, oui, il y a une carte blanche au collectif Micro Contact que certains connaissent peut-être, mais en tout cas, c'est un collectif qui fait de la lutherie sauvage. Donc, ils font des installations avec des composants électroniques, tout ça. Ils ont plein d'idées. Il y aura un karaoké qui déforme la voix et l'image en même temps. Il y a cet atelier photo-son, donc fabrique ta photo sonore, où en fait, les personnes vont faire à la fois un travail de studio photo pour se faire un portrait, mais le faire aussi eux-mêmes, et enregistrer leur voix, une phrase. Et sur le cadre photo, ils pourront appuyer. Et donc, ce sera une photo avec leur voix qui parle.
Tout ça est organisé par Micro Contact, hein, c'est ça?
Voilà, dans le cadre de la carte blanche. Il y a également le Bande Passante et Mel Studio.
Et qui organise eux-mêmes des rencontres chaque année. Alors, je ne sais plus si c'est au printemps.
Ils ont un festival fin octobre, mais cette année, ils ne vont pas le faire. Enfin, du coup, on se fait un peu un partenariat réciproque. Peut-être que Adoc fera quelque chose quand feront leur festival, en fait.
Très bien. Je voulais finir justement avec le premier soir, avec Hérédita, le dernier film de la soirée. Le lendemain, il y aura cette table ronde avec le film L'Invisible, dont vous en avez parlé. Suivi de Lisière, et puis Je suis allergique aux fraises, ça c'est une rediffusion, et les installations mentionnées. Et donc, Hérédita parle de quoi?
Alors Hérédita, pareil, ça s'enchaîne aussi dans les films et l'invisible, parce que donc, c'est le réalisateur achète un appartement, et donc c'est un vieux monsieur qui est décédé, il a l'impression de sentir la présence du fantôme de ce monsieur dans l'appartement. Donc ça, c'est le point de départ du film. Et en fait, il rencontre sa fille, qui est une dame âgée aussi, hein, puisque le monsieur était très vieux. Et en fait, ça dévie sur cette femme qui, en fait, a le syndrome de Diogène et en fait, qui est dans une sorte de folie et précarité. Enfin, un personnage hyper troublant, hyper attachant. C'est un magnifique film, Hérédita, j'ai vraiment adoré.
Et puis à suivre des rediffusions, comme vous le disiez,
voilà,
il y aura aussi une rencontre comme un tango.
Voilà, la rencontre comme un tango, donc là c'est l'histoire d'une artiste sculptrice, donc il y a aussi quand même des films d'art là, dans les thématiques qui se retrouvent, et le travail aussi. Mais elle est fan de tango, mais surtout c'est une personne non-voyante, ou malvoyante je crois. Et en fait, voilà, elle ressent tout. Il y a une sorte de travail de la sensation. Il y a également, dont on n'a pas parlé, À bientôt, c'est une promesse.
Oui.
Donc là, qui est un film... pour moi, ce film, c'est un peu comment cette dame a réalisé son rêve. Et donc, avec beaucoup aussi, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de films avec des archives, comme Je vois rouge et beaucoup de films, avec des images d'archives. Et on... Moi, ça m'a aussi fait connaître Florence Artaud, quelque part.
À suivre les galeries présidentielles pour le second soir du samedi 13.
Oui, ça se passe à Kinshasa. C'est un immeuble titanesque qui est avec un ascenseur qui est en panne. Et donc, du coup, différents personnages qui gravitent autour de ça et qui tentent de faire vivre le lieu. Et du coup, avec un réalisateur qui tente de filmer des fractures sociales, économiques et politiques du Congo et d'interroger comment, dans un monde en mutation, un lieu peut-il devenir le miroir d'une nation.
Et puis, nous passons au dernier jour avec cette table ronde aussi des réalisateurs et réalisatrices réunis. Alors, c'est un huis clos, en quelque sorte, ou alors c'est ouvert aussi à l'assistance publique?
Ah non, c'est ouvert à tous, bien entendu, que ce soit celle du samedi ou du dimanche. Et donc, sur cette deuxième table ronde qui sera animée par Marie Tavernier, il sera surtout question, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les difficultés parfois des réalisateurs dans les rapports avec les producteurs, sur le fait de fonder quelque chose qui réunirait tous les réalisateurs en Drôme. Voilà, une réflexion autour de ça, participative, tout le monde peut venir, voilà. Dans la première, dans celle du samedi, il y a des extraits de films, et donc voilà, ça présente aussi un peu les films du week-end. Et dans la seconde, c'est plus une discussion pour s'organiser, quoi.
Pour finir, ce dimanche 14, il y aura Climax Doc, avec des courts-métrages nombreux, j'imagine.
Ouais, ça c'est aussi une nouveauté avec un collectif Climax Doc qui existe depuis quelque temps autour de Cré, Mirabel, Oust, avec de temps en temps des... L'idée c'est d'avoir une thématique et puis de créer un film, souvent court, avec une limite de temps, mais sur une thématique qui est donnée un petit peu au dernier moment. Et là, du coup, le collectif a eu aussi envie de s'impliquer et de proposer pour ad hoc une proposition, donc ils ont lancé leur concours. Il y a eu pas mal de personnes qui ont répondu à cet appel. Et donc, les films chaque film documentaire, il y aura un cours du Climax Doc qui sera projeté. Et puis, le dimanche soir, on va tous les rediffuser pour finir le festival à 18h30 sur le site. Et je pense que vraiment, ça va être chouette. C'est des films plein de fraîcheur, qui sont faits par des gens du coin, avec des décors du coin. Enfin bref, franchement, ça vaut le coup.
J'ai omis de mentionner Matabiche aussi, pour samedi.
Oui, alors le groupe du samedi soir, donc Matabiche, qui est un groupe qui est du coin aussi, plutôt funky un peu, non? Voilà, avec...
Composé de femmes.
De femmes, et je crois qu'il y a quand même un homme. C'est pour ça que je n'ai pas osé le dire. Mais voilà, avec une bonne énergie péchue, féminine.
Il y aura la venue de Mondes et Multitudes. Ça, c'est une compagnie de l'Aveyron.
Oui, voilà, Mondes et Multitudes, c'est une association qui organise des projections. Et c'est eux qui s'occupent du plein air, entre autres, et de la salle 1, en fait, qui font les projections en DCP.
Il y aura aussi la présence de Radio Saint-Ferréol pour un direct, je crois bien, le samedi.
Tout à fait, Yves. Ouais. Ça aussi, c'est avec Radio Saint-Ferréol, depuis le début, on essaie de faire des choses ensemble. Chaque année, ça prend des formes différentes. Mais c'est important pour nous aussi, ces partenariats avec les radios locales.
Et puis, le principal soutien, c'est celui de Mirabel et Blacon aussi, qui vous aident, qui vous prêtent la main aussi pour l'organisation.
Oui, bien sûr, les services techniques sont à pied d'œuvre, mis à disposition de locaux. On a une super entente avec la mairie de Mirabel et ça, c'est précieux.
C'est un plaisir aussi pour les habitants.
Je pense, oui. Et je reviens là-dessus, je disais tout à l'heure que moi, ce qui touché dans ad hoc, c'était déjà les films qui sont différents, mais je trouve aussi à la fois dans les personnes qui organisent, dans l'équipe d'Orga, le collectif, tout ça, et dans les personnes qui viennent au festival, je trouve qu'il y a une grande diversité qu'on n'a pas forcément dans d'autres festivals, et ça, je trouve que c'est chouette de pouvoir se rencontrer et puis se voir sur le festival.
Oui, c'est vraiment une rencontre, ça c'est vraiment la particularité d'ad hoc, je dirais, moi aussi, ce qui me touche beaucoup. Et je pense que cette édition, là, la 8e, elle va être vraiment très belle, quoi. Avec tout ce qu'on propose et tout ce qui est proposé, ça vaut le coup, je pense. Juste, en fait, il faut savoir aussi que c'est un festival qui s'autogère financièrement également, quoi. Quasiment, à part des subs assez minimes, mais qui ne dépassent pas 1 000 euros, donc qui suffisent pas du tout. Voilà. Et aussi, on a essayé pendant des années de maintenir ce système à prix libre, que là, on a un petit peu modifié pour être en accord avec le fait qu'il faut aussi que le festival subsiste. Donc, du coup, il y a une proposition de différents prix en fonction des budgets cette année. Voilà. Parce qu'on est en autonomie financière quasiment. Donc, la réussite du festival dépend le festival de l'année d'après. Voilà.
En général, vous vous en sortez plutôt bien?
Oui, mais on a eu l'année dernière où, avec le temps, le soir, il n'y a pas eu beaucoup de monde et on s'est pris une petite claque l'année dernière, il faut le reconnaître. Mais depuis, il y a une équipe qui s'est redynamisée, qui a une belle fête de soutien et vraiment une bonne dynamique cette année pour cette édition. Ad Hoc est reparti pour moi pour au moins 10 ans. Non, déjà, on va aller jusqu'aux 10 ans.
Ouais. C'est... On a la 8e. C'est, la 8e. Combien, 8e édition?
8e. 8e,
ouais. Alors, pour tout connaître, il y a un site internet. On peut peut-être mentionner son adresse.
Oui, lesrencontresadhoc.com. Et puis, il y a un Facebook qui existe aussi. Vous tapez les rencontres ad hoc. Vous aurez aussi tout ce qu'il faut.
Ce premier jour, le 9, ça sera entre le 8 et le 10. Est-ce que l'actualité prend prise aussi sur ce collectif et ce festival?
Ça nous traverse, hein, comme tout le monde, on voit bien ce qui se passe. Il se trouve que nous, on est bien occupés avec ce festival, mais qui est en prise aussi avec le réel, avec ce qui se passe dans le monde, au niveau social, au niveau politique. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, nous, on sera là. Individuellement, chacun, chacune, certains iront à droite, à gauche aussi, par rapport à ce mouvement qui se prépare et qui se met en place. Mais c'est sûr que ça... Enfin voilà, Ad Hoc, c'est pas un festival politique militant, mais c'est sûr qu'on voit par les réalisations des réalisateurs des thématiques qui sont prégnantes de notre société. Et on est sensible à tout ça, et on est sensible aussi au fait que, on l'a dit tout à l'heure, les budgets se restent, etc. Enfin bref, on aurait aussi mille raisons d'être en colère. Et nous, en tout cas, une des manières de participer, c'est ce festival qu'on organise toutes et tous. Et puis il y a d'autres choses qui sont prévues. On verra, ça va être un peu l'inconnu.
Mais bon, vous pouvez tout à fait, après la grande manif et les grands mouvements du 10 qui sont en journée, venir après voir Pédale Rurale à l'Éden pour la soirée d'ouverture du festival Ad Hoc. Et Pédale Rurale, d'ailleurs, c'est une communauté LGBT qui organise une gay pride en milieu rural. C'est ça le... Donc ça sera dans la continuité de la journée.
Sera mercredi 10, hein, à 20h30. Juste une dernière question pour Jane. Est-ce que, comme tout réalisateur ou créateur, tu as ton outil de prise de notes? C'est-à-dire, est-ce que tu aurais une petite caméra ou un caméscope pour prélever ou filmer, capter?
Oui, moi j'ai deux caméras et c'est vrai que je les sors quand même assez régulièrement. J'ai plusieurs petits carnets aussi. J'ai un ordi bien rempli d'écrits. Voilà. J'ai des carnets qui ont des fonctions différentes, des carnets de titres, des carnets de remerciements, voilà, des carnets de scénarios. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, Jane et Stéphane Trouille, d'être venus sur RDUA pour nous parler donc de ces rencontres ad hoc qui auront lieu à Mirabel et Blacon du 9 au 14 septembre. Un festival du film documentaire hors circuit.
Et un petit mot aussi pour dire, Ad Hoc, c'est aussi plus de 60 bénévoles, donc c'est aussi quelque chose qui est important, comme tous les événements, mais c'est important de le dire, parce que c'est sûr que sans ça, on n'y arriverait pas, et c'est vraiment une belle équipe qui se met en place et qui agit pendant ces 5 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 6 jours de festival.
Oui, un grand merci à eux. Et d'ailleurs, comme chaque année, on finit le dimanche soir en les remerciant par un karaoké. Alors, cette année, ce sera un karaoké déjanté, on va dire, puisqu'il est un peu particulier. Mais voilà, c'est la petite fête des bénévoles à la fin, où le public peut rester aussi, bien évidemment.
Je vous souhaite bonne soirée.
Merci. Merci Radio Diwa. Ciao.
Tu vas nettoyer, tu sors. Tu vas nettoyer, tu sors.